Quelle différence il y a entre un arbre fruit et un arbre porteur de fruits, et quelle importance cela a. Simplement, je vous donne une indication, c'est un thème important. Dans toutes les traditions antiques, il y avait des arbres qui étaient reconnus comme des arbres sacrés. Et c'était des arbres de ce type. Dans la civilisation moderne, il y a un seul arbre qui est connu, où l'arbre a le goût du fruit. Le ? Non, c'est pas la civilisation moderne, ça c'est chez nous. Tu as goûté de l'arbre du cédra ? L'arbre, le bois. Le bois. La cannelle, vous avez entendu parler ? Bon, il y en a un autre que vous auriez connaître. Il y a fait. La réglisse. Il y a des sociétés primitives qui adoraient la réglisse. Comme les gosses qui adorent la réglisse. Bon, en tout cas, je reprends. Vous allez noter la référence et vous verrez ce que Rachid dit à ce propos. Il s'agit des versets 11 et 12 du chapitre 1. Je vous traduis les versets et vous verrez ce que Rachid dit à ce sujet. Vayomer Elohim, et Dieu dit, Tatche Ares Deshe, que la terre produise de l'herbe, Etze Mazriar Zera, de la végétation qui a une semence, une graine, on dit aujourd'hui, etzperi oseperi, un arbre fruit faisant fruit. Les minots, selon son espèce, asher zarobo, qui contient lui-même sa propre graine, à la arrêt sur terre. Mais tout ceci s'étudie, pourquoi c'est formulé comme ça? Mais il y a l'expression arbre fruit qui apparaît. Verset 12, la réalisation du projet, batotse ares déché, et la terre produisit de l'herbage, Etze Mazria Zerar, de la végétation porteur de semences, les minéou selon son espèce, va être oséperi et arbre faisant fruit. Alors Rachid intervient et dit, là, il y a une faute de la terre, elle n'a pas fait ce que Dieu a demandé, et lorsque l'homme a été puni pour sa propre faute, la terre aussi a été atteinte et maudite, elle a perdu sa fécondité qu'elle avait au temps du Canadien, au temps du paradis. Voilà un exemple. Je vous ai cité ça pour cette idée qui est très importante, que dès l'origine, dans la création, il y a une part de liberté, parce que c'est la base de ce qu'on va retrouver plus tard chez l'homme, la notion de mérite. Est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas vraiment de liberté, la notion de mérite n'a pas de base. Vous verrez, ce n'est pas un problème simple. Maïmonide a été le grand maître de cette question, dans un livre important, qui est l'introduction au Pirkei Avot, qui s'appelle les Shmona Prakim, les 8 chapitres, et qui va étudier les attendus, les conditions de la liberté de l'homme. En fait, on étudiera ça en son temps, mais lorsque on dit que l'homme est libre, il est libre à l'intérieur d'un conditionnement de sa propre nature qui le limite. On peut s'en libérer de ce conditionnement, ça on étudiera tout cela, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignement de Maïmonide, en général, parle au plus haut niveau. Maïmonide parle pour un homme libéré, vraiment libre, capable de réaliser au niveau du pouvoir ce qu'il veut, au niveau du vouloir. Pour nous, les hommes moyens, il y a une différence entre le pouvoir et le vouloir. Ma volonté est infinie, je peux vouloir n'importe quoi, mais est-ce que je peux ce que je veux? Vous voyez la différence entre ces deux capacités, ces deux fonctions. Et il en résulte que finalement on est quasi-libre, on est plus ou moins libre et chacun est à un niveau différent de la capacité de liberté. Il ne faut pas juger quelqu'un par rapport au profil d'identité de quelqu'un d'autre. Chacun est à un stade différent de ce problème de la maîtrise des conditionnements. C'est clair ce que je dis là. C'est important pour la morale pratique. Lorsque nos maîtres nous enseignent, l'homme est libre, voilà le bien, voilà le mal, et tu peux choisir ce que tu veux, faire ce que tu veux, c'est au plus haut niveau que c'est enseigné, pour un homme libéré. D'ailleurs, un homme conditionné, et le conditionnement, lorsqu'il est non naturel, c'est la maladie, et n'est pas soumis à l'obligation des commandements, parce qu'il a perdu sa liberté. Et tout ça, vous étudierez dans le Shulchan Aruch assez en détail. Et l'idée qu'il y a est importante, le niveau de responsabilité de chacun dépend de son niveau de liberté. et c'est pas égal à tout le monde. On étudiera ça. D'ailleurs, c'est un sujet important. Par exemple, nous vivons dans un type de civilisation qui nous conditionne et on croit qu'on est libre. Par exemple, quand ma femme me fait cadeau d'une cravate à Hanouka, elle croit qu'elle a choisi la cravate. Alors que c'est en réalité la mode qui l'oblige à choisir sa cravate. C'est ma cravate. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est conditionné par des clichés. Vous avez un matraquage des affiches qui conditionne et on croit qu'on a choisi librement alors qu'on a obéi à des sollicitations des modes. Il y a un conditionnement de l'homme, surtout l'homme moderne est très asservi et très aliéné, comme on dit en langage moderne, et ne se rend pas compte. Alors il faut juger chacun vraiment dans la situation réelle dans laquelle il se trouve avant de juger. Vous avez compris le problème. Et là, la vraie morale des rabbiniques, elle est juste. On ne juge pas quelqu'un mécaniquement. Il faut étudier dans quelles conditions de liberté, de responsabilité il se trouve. Les juifs ont tendance à coller des étiquettes sur les gens, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une erreur de jugement. Quand on traite quelqu'un de rachat, on traite quelqu'un de apikoros, c'est interdit par le Talmud. Il faut savoir de qui on parle et étudier le cas. Il n'y a que le tribunal qui peut savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans les limites. Vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, mais en général, ça devient des circonstances exténuantes. Alors, il faut se méfier des jugements a priori. Ça dépend de la capacité de liberté de chacun. La formule talmudique, c'est « Ones rahamana ptira ». Quelqu'un qui est obligé, dans la liberté est aliéné, honnête, qui est, comment on dit ça en français, forcé, oui, quel mot que je cherchais, Rahamana Tira, la Torah est appelée Rahamana, la miséricorde de Dieu, l'absou. Et pour une grande consigne de la morale juive pratique, on ne juge jamais les personnes. Il n'y a que le tribunal qui peut juger une personne. On juge les actes. Et alors, avant de comprendre ce qu'un acte signifie, il faut vraiment savoir qui a agi tel ou tel acte. Quand un tzaddik fait apparemment une avera, peut-être que c'est une mitzvah. Et quand un rachar fait apparemment une mitzvah, peut-être une avera. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Il faut se méfier dans les jugements. Bien. Alors, voilà donc la référence. Alors, je continue en tout cas le plan, et après on s'occupera de notre texte. Alors, on a fini le verset 3. Le projet... Le récit historique de la réalisation du projet. Nous aurons à étudier ça plus en détail, cette structure des moments d'histoire dans ce monde-ci, comme la Bible les raconte. On s'occupera surtout des récits de l'histoire des patriarches. Et on verra comment la Torah enseigne comment l'humanité a réalisé un projet du Créateur à telle ou telle étape de notre histoire. On fera ça très rapidement pour arriver à l'histoire d'Israël. Verset 4. Vayar Elohim et Taor Kito. Encore une fois, je vous rappelle, on ne va pas étudier tout ce que dit le verset, c'est plein de questions à étudier, mais pour notre sujet, le plan, la structure du récit. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Là, une notion de jugement. En réalité, ce Vayar, dans ce contexte, ça veut dire approuver. Pas seulement voir, mais approuver. Dire haute. Vous connaissez la notion française de bienveillance. C'est voir bien. Bien voir. Ça veut dire approuver. Il y a jugement. Est-ce que la réalisation coïncide suffisamment avec le projet? Mais comment ça se passe? Projet, et puis la réalité. Le projet est dans l'ordre d'une vérité absolue. La réalité est toujours approximative du projet. Il y a donc un jugement pour savoir si c'est suffisamment compatible et qu'on puisse passer à l'étape suivante. Ça, c'est le jugement. Et Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. Le jugement sépare la partie du monde qui a déjà réussi dans l'ordre du projet et la partie du monde qui n'a pas encore réussi. Ça, vous voyez, la troisième étape a deux moments, le jugement qui mène à la séparation. Et quatrième étape, Dieu va assigner à chacune de ces parties une finalité. La partie qui a réussi et la partie qui n'a pas réussi. Les deux vont servir à quelque chose. Et quand je dis la partie qui a réussi, celle-là, elle a réussi dans l'ordre d'un projet qui concernait l'ensemble. Et donc la partie qui n'a pas réussi, c'est la partie qui n'a pas encore réussi. Mais bien qu'elle n'ait pas encore réussi, elle sert à quelque chose. Suivez sur le texte. Pourquoi vous me regardez? C'est moi qui vous regarde. Mais suivez sur le texte. Je veux dire, ça vous aidera à apprendre le texte par cœur. Tant que vous ne le connaîtrez pas par cœur, vous ne le connaîtrez pas. Ce n'est pas écrit sur ma figure. Hein. C'est le verset 5. Vaikra Elohim Laor Yom. Et Dieu appela la lumière jour. Voilà, Dieu a destiné la lumière à être le jour. Vela Chosher Kara Laila. Et à l'obscurité, il l'a appelé nuit. Vous voyez, il y a une hafifout, comme on dit en français. Ça correspond. Okay. Vous voyez, la finalité de la lumière, c'est le jour. La finalité de l'obscurité, c'est la nuit. Ça sert à quelque chose, les deux. Nous sommes dans un monde qui est jour et nuit. Alors que le projet, c'était un monde que jour. Mais dans beaucoup de prières, on souhaite qu'arrive le temps « Olam Shekulo Or » le monde où tout sera lumière. Mais le monde dans lequel nous sommes est encore un monde où il y a et lumière et obscurité. Vous voyez les trois étapes. Le monde était dans l'état d'obscurité, le chaos. Dieu dit qu'il y ait lumière. Il y a eu lumière, mais il y a encore obscurité. Alors il y a séparation des deux. Il y a finalisation de chacun. La lumière sert au jour et l'obscurité sert à la nuit. Et tout ça doit être réétudié. Mais comprenez d'abord la structure. Vous voyez, par exemple, l'été il fait chaud. Et l'hiver, il fait froid. Ça ne vous a pas frappé, ça? Comment le monde serait si en été, il faisait frais, et en hiver, il faisait chaud? Ça irait mieux. Non? Comment? J'entends pas. C'est le cas de? Non, tu n'as pas compris ma question. Parce que même en Australie, il y a l'été et l'hiver. Mais ça veut dire, il faut raisonner avec agilité. Hein? Ne vous prenez pas dans les pièges des mots. Nous sommes dans un monde où il y a les contraires des contraires. Et il est évident qu'il faut prendre conscience que ce n'est pas le monde du projet. Un monde où en été il fait chaud, en hiver il fait froid, ce n'est pas normal. Parce qu'en été on a besoin d'avoir frais et en hiver on a besoin d'avoir chaud. Regardez, l'énergie que l'humanité dépense pour avoir des ventilateurs en été et des chaufferettes en hiver. Avec ça, on pourrait changer le monde, avec ces budgets-là. Mais voilà, on peut remarquer ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. En été, il fait chaud, en hiver, ça manque d'humour. Quoi. Ça y est, t'as compris? Bon, alors, ça vient de là. Vous voyez? Alors, je reprends la structure du plan. Projet, réalisation, jugement. Et on sépare la partie qui a réussi, où la réalisation a coïncidé au projet, le plus possible, de la partie qui n'a pas encore réussi. Mais à chacun des deux, il y a une destination. Il y a les tzadikim et les rechaim. Voilà, il y avait un projet de vertu. Les tzadikim sont ceux qui ont coïncidé avec le projet de vertu. Et les rechaim sont ceux qui n'ont pas coïncidé. Et bien, les tzadikim servent à quelque chose, et les rechaim aussi servent à quelque chose. Vous ne réagissez pas? Les rechaim servent à quelque chose. Hein? Ça ne vous paraît pas bizarre? Hein? Ça vous apprendrez. Parce que on apprend de ceux qui savent donner, c'est ça être tzadik, savoir donner, et on apprend de ceux qui savent recevoir. C'est ça les rechaim, ceux qui veulent rien que recevoir. Mais c'est grâce aux rechaim qu'on a des frigidaires. Parce que si quelqu'un n'avait pas eu envie de boire frais le Shabbat, on n'aurait jamais de frigidaire. Mais c'est être rachard de recevoir une jouissance. Il faut les donner, les jouissances. Mais pour que vous découvriez, les choses ne sont pas si simples qu'on peut croire. Hein. Il y a un midrash qui dit ça. Et Midrash qui dit, qu'est-ce que ça veut dire « Et Dieu vit que la lumière était bonne ?» Et il répond, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Il a préféré la lumière à l'obscurité. Et le Midrash continue. Il a créé les tzadikim, il a créé les rechaim, mais il préfère les tzadikim. Oui, les choses ne sont pas si simples. Hein. Ça vous apprendra. Je vous annonce des sujets d'études qu'on aura. À quoi servent les rechaim, hein. Mais c'est ce que la Gemara dit. Hein. Et vous allez apprendre un peu plus profondément. La Gemara dit ceci. Dieu a créé le Yetzer Hara, et pour corriger le Yetzer Hara, il nous a donné la Torah. Alors ne crée pas le Yetzer Hara, s'il ne faut pas. Ne crée pas le Yetzer Hara. Qu'est-ce que c'est cette explication, hein? Il faut bien comprendre. S'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de vie sur Terre. Parce que c'est le Yetzer Hara qui nous donne l'appétit de vivre. Vous savez, la Neshama des Tzadikim ne demande qu'une seule chose, c'est de remonter à la maison. Alors pour l'accrocher sur Terre, il lui faut un Yetzer Hara. Et comme le Yetzer Hara, c'est mauvais, il nous a donné la Torah pour... Vous avez compris le raisonnement ? Oui, je vous dis de la Gemara, ne croyez pas que c'est des idées. C'est l'enseignement de la Gemara. On a raconté cette histoire à propos de Ezra. Ezra, qui est un grand de la Torah, vit à la fin de la prophétie. Et au moment où la prophétie s'est arrêtée, l'idolâtrie s'est arrêtée en Israël. Ça, c'est une chose que vous étudierez par la suite. Pendant tout le temps où il y avait les prophètes, c'était le temps où il y avait l'idolâtrie. Et une des principales exhortations des prophètes, c'est contre l'idolâtrie. Subitement, l'idolâtrie s'arrête, parce que la prophétie s'est arrêtée. Et retenez bien les choses comme je l'ai dit, ne changez pas de mots. Et l'explication est très simple. Quand on voit, on peut aussi voir mal. Mais quand on ne voit plus, même mal on ne voit pas. En temps de la prophétie, on voyait. Alors on voyait aussi des idoles. Mais alors la prophétie s'est arrêtée, on ne voit plus les idoles. Ça veut dire, en prenant les mots dans le sens strict, un moderne ne peut même pas être païen. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Dommage, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous enrichirai ces idées, mais réfléchissez par vous-même. Les modernes pensent que les idolâtres, les païens, c'est des primitifs. Tout simplement, sans Jorsing Gomara, tout simplement, ils ne se rendent pas compte de l'expérience qu'avaient les païens, de la révélation. Alors, voir une idole, c'est voir une ombre. Mais quand on ne voit pas, on ne voit pas d'ombre. Mais c'est parce qu'on ne voit pas. Vous avez compris ce que je dis ?
Non.
Non. C'est, pourtant, je vous parle en français. Qu'est-ce que c'est que le paganisme ? C'est une erreur sur la révélation du vrai Dieu. Mais pourquoi on n'est plus païen ? C'est parce qu'il n'y a plus de révélation. Pourquoi on ne voit pas les choses qu'on se voyait mal ? C'est parce qu'on ne voit pas du tout. Je vous donne un exemple. Mais tout ça, il faudra qu'on reprenne. Nous parlons des anges. Je crois que je vous ai cité ça la dernière fois, non ? Mais qui est-ce qui sait qu'est-ce que c'est un ange ? Hein ? Alors, imaginez, les païens adoraient les anges. Ça, c'est pas bon. C'est interdit par la Torah d'adorer des anges. Pourquoi nous, on ne tombe pas dans cette erreur ? C'est parce qu'on n'est même pas capable de voir des anges. Alors, on n'est pas capable de l'erreur qui consiste à les adorer. Est-ce que vous avez compris, mieux compris ? D'ailleurs, quelqu'un qui vous dit qu'il a vu un ange, ou bien c'est un poète, ou bien c'est un menteur, ou bien il est fou. Il faut le soigner. Et pourtant, la Torah parle des anges. Seulement, entre-temps, on oublie que la révélation a cessé. Alors, pourquoi on ne voit pas les idoles ? C'est parce qu'on ne voit pas du tout. Vous voyez, c'est clair ? Alors, ne croyez pas que ceux qui adoraient le soleil, c'était des primitifs. Simplement, ils avaient une expérience de la sensibilité religieuse que le moderne n'a pas. C'est une Gemara qui dit. C'est une Gemara qui dit ça. Parce qu'un roi d'Israël a été idolâtre. Alors, un de ses maîtres ironisait sur l'idolâtrie du roi d'Israël. Et puis ce roi, des maîtres du Talmud par la suite, ce roi d'Israël lui est apparu en songe et a dit, si tu vivais de mon temps, tu courrais à plat ventre derrière les idoles. Pourquoi tu as la vertu de ne pas être idolâtre ? C'est parce que tu vis par autant de l'idolâtrie. Bon, on reprendra ça tout ça une fois, j'ai pas le temps aujourd'hui. Voilà. Alors, je récapitule le récit en quatre points. Chaque fois, il y a ces différents points. Le projet, ce qui est arrivé, le jugement sur le projet, et donc la séparation, la décimation de chaque partie du projet et le bilan. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1. Et on s'aperçoit que ce verset qui scande chaque récit de chaque jour n'existe que jusqu'au sixième jour. Suivez bien, c'est là que je vais arrêter la première partie du cours. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 2e, jour 3e, jour 4e, jour 5e, jour 6e. Et dans le récit du septième jour, il n'y a pas encore « Et ce fut soir, ce fut matin, jour septième. » Vous avez remarqué ça en lisant le premier chapitre, okay. La dernière fois, quelqu'un, quand j'ai parlé de ça, qui se trouvait là, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, avait dit pour le rythme 6 plus 1. Et je l'ai repris en disant, non, c'est 6 et le 7e. C'était toi ? Oui. Tu comprends maintenant pourquoi ? Il n'y a que le jour 1, qui est le premier, qui s'appelle 1. Et précisément, il n'y a pas jour premier. Hein ? Il y a écrit, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir écrit ? Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Rishon. Alors, qui peut répondre ? Pourquoi il n'y a pas Rishon ? Pourquoi il y a Echad ? Vous voyez que ce n'est pas la même chose de dire jour 1 et jour premier. C'est clair ? Alors, le septième jour, ce n'est pas un jour 1, c'est le jour septième. Quand tu avanceras plus dans les études, tu verras la différence mieux. Mais déjà, au point de vue de la forme du vocabulaire. Je vous donnerai la réponse d'un grand rabbin, qui s'appelle Abravanel, un grand commentateur de la Torah. Très bien. Tant qu'il n'y a pas le deuxième, il n'y a pas un premier. Il faut qu'il y ait un deuxième pour que ça s'appelle premier. Tant qu'il n'y a pas le deuxième, c'est un jour 1. Il est à part ce jour-là. C'est le jour de la lumière. Vous avez compris ? Et le Midrash dit, le jour 1, c'est le jour où Dieu était seul dans son monde. À partir du jour 2, il y a un deuxième. Il y a des créatures. Ça, c'est le Midrash. Mais je reviens à l'explication d'Abravanel, qui est l'explication au niveau de la logique, retenez-la bien, qui est Yom Echad. C'est pas Yom Rishon. Et c'est pour apprendre que bien qu'il y ait Erev évoqué, bien qu'il y ait soir et matin, Dieu est un. Parce qu'on pourrait se demander, alors combien il y a de Dieu ? Le Dieu de la lumière, le Dieu de l'obscurité. Et il y a eu des religions comme ça. Qui connaît le nom de cette religion qui s'appelle le dualisme, et où il y a deux dieux, le dieu de la lumière et le dieu de l'obscurité? Vous êtes d'une ignorance encyclopédique. Le zoroastrisme, vous n'avez pas entendu parler. Bon. Et c'est contre le mazdéisme, enfin le zoroastrisme. Vous êtes de culture française, je crois. Vous avez appris culture française en Corse. Et alors je reviens au sujet. Le jour et la nuit, c'est tellement différent que naturellement, les hommes ont pensé qu'il y avait deux absolus, l'absolu du jour, l'absolu de la nuit. Mais nous affirmons, Dieu est un. Bien qu'il y ait le jour et bien qu'il y ait la nuit, Dieu est un. Yom Echad. Bien qu'il y ait Erev, bien qu'il y ait Boker. Et quand est-ce qu'on doit proclamer que Dieu est un ? Précisément quand on sort du jour pour entrer dans la nuit, et quand on sort de la nuit pour entrer dans le jour. Parce que quand on passe d'un monde à l'autre, c'est un tel contraste que naturellement on pourrait se dire, et combien il y a de Dieu ? Alors, la Torah nous demande, à ce moment-là, d'affirmer, Dieu est un. C'est-à-dire que ce n'est pas évident. C'est le zoroastrisme qui est une religion naturelle. Nous, c'est une religion révélée. Nous savons que malgré les apparences, Dieu est un. Celui qui a fait le jour, c'est celui qui a fait la nuit. Quand vous étudierez les formules de la prière, vous verrez que les brachot kavan kshat shmar, où on affirme que Dieu est un, sont formulés contre ce zoroastrisme. Celui qui a fait la lumière, c'est lui qui a fait l'obscurité. Celui qui a fait l'obscurité, c'est lui qui a fait la lumière. Relisez les brachot du kshat shmar. Vous verrez que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'était à l'époque de cette religion, les anciens iraniens, et le christianisme naissant a dû lutter contre ce mazdéisme pendant des siècles, à l'époque de cette religion, que la formulation des brachot du kshat shmar nous a été donnée intentionnellement comme cela. Bon, alors voilà, je vous interrogerai la prochaine fois sur cet enseignement, une minute, j'ai vu, sur cet enseignement qui est très particulier. La structure des récits historiques de la Torah en prenant pour modèle le récit du premier jour. Et on arrive donc au sixième. Et dans le sixième jour, vous verrez dans le texte, vous reprendrez le texte, l'homme apparaît. Et dès que l'homme apparaît, Dieu cesse d'agir comme créateur, il devient providence de l'histoire, et le monde se transforme en la nature. Le septième jour commence. Et alors, l'objet de ce récit, qui va commencer à partir du septième jour, c'est de nous raconter l'histoire du monde le septième jour, qui nous amènera au huitième jour. Et nous sommes encore dans ce grand septième jour, du commencement de l'histoire du monde. Et on attend le huitième jour. Et je ne sais pas si vous avez déjà appris au Mahon Hanouka. Hein, chaque fête qui a huit jours, c'est une fête qui a une signification messianique. Shemincha Atzeret et surtout Hanouka. Le jour messianique, c'est Hanouka. On va faire un peu de vocabulaire sur Hanouka. Comment dit-on le huitième jour ? Yom, hein ? Shmini. Comment on dit l'huile ? Shemen. Alors, Yom HaShemini, c'est le jour de l'huile. Vous n'avez pas remarqué ça ? On ne dit rien, ça. Et vous voyez les Hashmonaïm. Hashmonaïm. La première lettre, c'est Chet. Comment ça vaut Chet ? 8. Et ensuite, qu'est-ce qui reste ? Shemen. Ça, c'est apparemment des coïncidences. Bien. Ça veut dire qu'il y a un problème entre l'huile et le huitième jour. Et effectivement, je vais vous expliquer cela. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le Messie ? En français, ça traduit quel mot hébreu ?
Mashiach.
Qu'est-ce que ça veut dire Mashiach ? Ah, non, le ouin. C'est pas du belge, hein, ouin. O-I-N-T, celui qui est ouin par l'onction. Et qu'est-ce que c'est que l'onction ? C'était une cérémonie par laquelle on faisait passer de l'huile sur le front de celui qui était ouin. De l'huile. Ouais. Le huitième jour, c'est le jour de l'onction, c'est le jour messianique. D'ailleurs, en français, pour dire que quelqu'un est important, comme on dit, c'est une huile. Vous n'avez pas remarqué ça ? Une huile, une grosse huile. Vous ne connaissez pas ces mots-là en français ? Ça vient de tout un vocabulaire biblique. Hein. Les rois de France étaient ouin. Les rois de Belgique aussi, mais oui, bégayés. Et alors, c'est resté dans le français. Pour dire que quelqu'un est important, ça veut dire qu'il a une place dans la société, on disait, c'est une huile. Ça vient de là. C'est pas plus compliqué. Alors, vous voyez, il y a une attente du huitième jour. Vous remarquerez, quand vous étudierez la liturgie de Shabbat, c'est le Shabbat soir, la fin du septième jour, qu'on attend qui ? Eléonavi. Et qu'est-ce que doit faire Eléonavi ? Annoncer le Messie. C'est-à-dire annoncer le huitième jour. Alors jusqu'à présent, tous les sept jours, il n'est pas encore venu, et on recommence. Un premier jour, deuxième jour, septième jour. Un jour, à la fin d'un septième jour, on entrera dans le huitième. Ça, c'est l'attente messianique du huitième jour. Alors vous allez schématiser ça de manière très simple. La Torah nous a raconté six étapes. Et puis, elle nous situe l'histoire de l'homme dans la septième étape, qui est le septième jour. Les six premiers jours, c'est les six jours du commencement. Dieu agence son monde. Dès qu'il est habitable par l'homme, ce monde devient la nature. Et commence le septième jour. Le chiffre 7 est toujours à l'indice de la nature. Et le chiffre 8, toujours à l'indice du Mashiach, de Yevant à Mashiach. Bon, je vous donne un certain nombre d'indications, comme quoi Hanouka, c'est une fête qui a un sens messianique. Ce sera la réinstallation de la lumière dans le monde après le temps d'obscurité depuis la destruction du temple. On attend le huitième jour. Et c'est important de voir que le peuple juif, dans son ensemble, a une sensibilité pour Hanouka qui dépasse la sensibilité pour d'autres mitzvot, par exemple. Vous avez remarqué ça ? Tous les petits juifs, Hanouka, ça leur dit quelque chose. Okay. C'est le folklore bleu et blanc. C'est le folklore israélien, d'ailleurs, Hanouka. Vous voyez la menorah de l'État. Pour ceux qui sont la première année dans le pays à Hanouka, vous allez voir tous ces immenses menorahs qu'il y a partout. Surtout chez les chilonim, chez les gens qui ne pratiquent pas la Torah. Pour eux, Hanouka, ça leur dit quelque chose. C'est la restauration de la nation d'Israël après la destruction du Temple. Et vous remarquez, tous les mouvements jeunesse juifs sont à l'indice Hanouka. Il y a quelque chose qui se passe à propos de chaque fête qui est à l'indice 8. Bon, retenez ça dans un coin de votre mémoire. Quand vous étudierez le calendrier, vous le retrouverez. Voilà. Alors, toi, tu avais une question tout à l'heure. J'en profite pour dire, si vous avez une question sur ce qu'on est en train d'étudier, posez-la dans le cours pour tout le monde. Pas après le cours, comme ça, en aparté. Comment on appelle ça ? Cours privé ? Non. Quelle est ta question ?
Non, c'est par rapport à... C'est un rapport avec quelque chose de tout à l'heure.
Eh bien oui, j'écoute.
Non, parce que vous avez dit que pour obtenir quelque chose, il fallait être prêt à y renoncer. Et je voulais savoir encore comment on pouvait expliquer cette contradiction avec le fait que pour vouloir quelque chose, il faut de la volonté et de la détermination.
Oui, mais il y a une différence entre vouloir et acquérir. Oui. Si tu veux, pour profiter de ta question, il y a le moment du don. Or, celui qui a voulu me donner veut que je possède, mais ce n'est pas tant que j'ai comme un cadeau que je possède. Ça, il m'a donné. Mais est-ce que j'ai droit à posséder? Ça, il faut que je mérite. Et je vous donne un exemple. On parle de Matan Torah, le don de la Torah. Dieu nous a donné la Torah. Mais il y a Kinyan Torah, l'acquisition de la Torah. Et comment on transforme le don en acquisition? C'est par Talmud Torah. En étudiant la Torah qui m'a été donnée, je l'acquiers. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, c'est un exemple privilégié. Je vais d'abord répondre à ta question. Je vous ai pris l'exemple du sacrifice d'Isaac, hein, pour expliquer ceci en vous demandant, je ne vous demande pas de comprendre le sens abstrait des mots. Les mots, vous comprenez, mais le sens de cela, il faut de l'expérience de sagesse pour comprendre ça. C'est l'expérience de la vie qui vous le fera comprendre. On n'a vraiment jamais obtenu que ce en quoi on était prêt à renoncer, parce qu'on ne peut renoncer que ce qu'on possède vraiment, ce qu'on a le droit de posséder. Si je donne quelque chose qui n'est pas à moi, je n'ai pas donné. Mais si vraiment je donne quelque chose, c'est le signe que c'est à moi. Alors ça m'est confirmé. Et Tenlo Michelo, dit la Gemara, donne-lui de ce qui lui appartient. C'est, si je donne quelque chose qui est en dépôt, un prêt, je n'ai pas le droit. Il faut que ce soit vraiment à moi, acquis par moi, pour que je le donne. Mais alors si je suis prêt à donner quelque chose, c'est le signe que je le possède vraiment. Est-ce que c'est clair? Ça va ensemble. Et dans le cas de la Torah, quel est le droit? Qu'est-ce qui donne le droit de posséder la Torah? C'est d'être prêt à la donner. On apprend plus de Torah en enseignant qu'en apprenant. Je ne sais pas si vous savez ça. On a besoin de l'expérience. La Torah, c'est la seule chose qu'on peut garder en la donnant. Et non seulement on la garde en la donnant, elle se multiplie quand on la donne. Vous comprenez le problème, okay? Je vais vous donner une des manières d'expliquer. Je ne sais pas combien vous êtes là. Et moi, je suis tout seul de l'autre côté. Ça veut dire, j'ai...